Bonjour tout le monde et bienvenue dans le débat de midi. Vous connaissez le principe, nous sommes ensemble tous les jours pour débattre pendant une heure sur des sujets de société qui marquent notre époque et sont dans l'air du temps. Et le sujet du jour, lui, semble les traverser, les époques. Ça fait plus de 40 ans qu'on en parle en France, avec cette étrange impression de marcher sur des œufs, alors qu'il nous concerne tous et que certains voudraient y aller plutôt franchement, la fin de vie. Avec une question au cœur du débat, la mort vaut-elle mieux parfois qu'une vie qui n'en a plus que le nom, douloureuse et insupportable. Autrement dit, des souffrances physiques et psychologiques extrêmes, inapaisables, incurables, peuvent-elles justifier de les abréger, les stopper net par la main du médecin ? La France répond non. L'euthanasie ou le suicide assisté sont illégaux, contrairement à 5 pays voisins en Europe. La France répond non, mais le manichéisme est proscrit dans ce dossier complexe et délicat. Des mesures législatives ont été prises successivement depuis les années 2000 pour prendre la souffrance des patients en considération, jusqu'à la loi Leonetti. Mais c'est insuffisant pour beaucoup qui dénoncent l'hypocrisie d'une aide à mourir passive quand eux la demandent active. Choisir sa mort doit-il être un droit ? On y réfléchit ensemble jusqu'à 13h.
Camille Crenier. Le débat de midi. Sur France Inter.
Et à vous qui êtes de l'autre côté du poste, j'attends bien sûr vos messages, vos questions sur l'application France Inter, par mail sur la page du débat de midi et sur Twitter. Message que je relayerai à mes quatre invités. Bonjour Marion Brouck.
Bonjour.
Vous êtes infirmière en soins palliatifs à l'APHP, membre de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. On dit la SFAP dans le jargon, c'est ça ?
Tout à fait.
Bonjour Emmanuel Hirsch.
Bonjour.
Professeur d'éthique médicale, auteur de « Faut-il autoriser l'euthanasie ?» dans la collection Pour les nuls, hein, donc ça traite vraiment de tous les sujets, cette collection. Vous avez aussi écrit Vincent Lambert, une mort exemplaire, point d'interrogation, paru aux éditions du CERF. Dans ce studio également, Philippe Loéac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué général de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et en duplex de France Bleu Provence à Aix, François Dama, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, vous, à l'hôpital de la Citadelle à Liège, en Belgique, auteur de « La mort choisie, comprendre l'euthanasie et ses enjeux » aux éditions Mardaga. François Dama, ma première question est un peu délicate, hein, à l'image de tout ce dossier, mais vous qui pratiquez l'euthanasie en Belgique, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous sentez après ? Est-ce que vous arrivez à ne pas y penser le soir en rentrant chez vous ?
Écoutez, ce n'est pas un acte qui se résume à une injection létale. Une euthanasie, c'est l'aboutissement d'un accompagnement et d'une prise en charge d'une personne extrêmement malade qui demande à pouvoir être aidée à mourir. Cette prise en charge comprend non seulement la personne mais aussi son entourage dans une prise en charge multidisciplinaire avec une vraie équipe soignante. Et nous faisons en sorte que l'acte d'euthanasie soit transformé en un véritable dernier acte de soin. Et on a à ce moment-là une impression de travail bien fait, de travail même réussi. Et nous avons un sentiment de complétude et souvent des remerciements et une gratitude de la part des familles qui sont extraordinaires.
Et pas d'émotion à titre personnel ?
Alors évidemment, l'émotion est toujours partagée. Je ne suis pas devenu un technicien d'un acte d'anesthésie ou d'euthanasie. Je participe effectivement à l'échange émotionnel du moment. Mais je peux vous dire que j'en ressors habituellement grandi.
Philippe Loéac, ça veut dire quoi mourir dans la dignité ?
Nous, on interprète le terme de mourir dans la dignité comme le fait de mourir dans sa propre liberté, dans le respect de sa volonté. Or, aujourd'hui, on peut avoir des personnes qui vont au bout de leur maladie, qui sont extrêmement dignes, comme des personnes qui demandent à bénéficier d'une aide active à mourir pour abréger cette partie qui leur semblerait, à ce moment-là, indigne de leur personne. C'est leur volonté. Donc la dignité, pour nous, c'est la liberté. C'est cette liberté et la dignité. Le CCNE, dans un avis de...
Le CCNE, le Comité Consultatif National d'Éthique,
pardon, en 2000, avait défini ce qu'était la dignité. La définition est peut-être un peu longue pour que je vous la donne à l'antenne, mais en tout cas, c'est le respect de la volonté du patient, et c'est d'ailleurs ce que comprend toutes les lois sur la démocratie sanitaire qui existent en France depuis 2000, puisque la démocratie sanitaire consiste à dire que c'est le patient qui est au cœur des décisions qui le concernent et des thérapeutiques qu'il prend.
Marion Brook, vous êtes d'accord avec ce que dit Philippe Loéac sur la dignité ?
Je mettrai quelques nuances, puisque pour moi, la dignité, c'est le regard qu'on porte sur l'autre, et donc on est digne quoi qu'il en soit, quel que soit l'état dans lequel on puisse se trouver. Mais moi, je pense qu'il serait intéressant pour commencer ce débat de vraiment redire ce que dit la loi française, la loi de 2016 actuellement, qui est quand même une des lois les plus évoluées au monde en termes de droit des patients à mourir de façon apaisée. Et pour reprendre ce que disait Philippe Loéac, justement, dans cette loi, il y a trois choses qui sont dites, dont celle que le médecin ne peut pas aller à l'encontre des volontés du patient. Donc je pense que ça, c'est vraiment très important. Donc le patient a le droit de refuser tout traitement, tout soin, toute investigation s'il n'en veut pas. Et puis les directives anticipées sont devenues contraignantes, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant.
Alors,
ça, je pense que c'est très important.
On va justement faire un petit récapitulatif peut-être avec vous, Emmanuel Hirsch, sur les lois, parce que là, vous nous avez donné beaucoup d'informations d'un coup, Marion Brook. Il y a trois lois, c'est ça, depuis une vingtaine d'années, Emmanuel Hirsch?
D'ailleurs, la première loi était sur les soins palliatifs et pas sur l'euthanasie. Mais il faut rappeler que le mot dignité est apparu effectivement dans le discours des soins palliatifs qui émerge vers 1980. Et il y a deux manières de mourir dignement. D'abord, de mourir accompagné dans une société, ne pas être abandonné. Et les soins palliatifs sont aussi un accompagnement digne, c'est-à-dire respectueux de la personne dans ses valeurs, dans ses droits, y compris dans sa famille, c'est-à-dire dans maintenir les liens, la relation jusqu'au bout. Puis vous avez la création de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui, au nom de valeurs philosophiques respectables, celles de l'autonomie décisionnelle, disent on peut aussi envisager alternativement une autre forme que les soins palliatifs, et notamment l'euthanasie. Un mot qui ne doit pas faire peur a priori. C'était d'ailleurs un des fondateurs, Henri Caillavet, de la DMD, qui le disait. Alors pour répondre juste à votre question, il y a effectivement au moins trois législations. Il y a la législation de 99.
Donc avec les soins palliatifs.
Voilà, une législation importante, celle de 2005, qu'on appelle la loi Leonetti, droit des malades, et qui est une loi importante.
Et puis qui instaure quoi en 2005
pour c'est une loi pour moi tout à fait intéressante. D'abord, elle est contre l'obstination déraisonnable. C'est ce que Marion Brook vient de déblayer. C'est-à-dire la personne doit être respectée dans son choix de ne pas aller trop loin dans un traitement, notamment lorsque ça pose la question de la souffrance.
C'est ce qu'on appelle parfois communément l'acharnement thérapeutique.
Voilà, ce qu'on appelait l'acharnement thérapeutique autrefois. Et puis un deuxième point, c'est la prise en compte de la souffrance de la personne, la souffrance globale, ce que les soins palliatifs font. Et puis un troisième point qui me semble important, c'est si on permet à la personne de ne pas souffrir, on peut envisager que malheureusement les traitements antidouleurs peuvent abréger son existence. Mais l'intention n'étant pas de mettre fin à la vie de la personne. Et puis la troisième loi,
2016.
C'est la loi Claeys-Leonetti, qui parle de sédation profonde et continue jusqu'au décès. Je ne veux pas faire une exégèse de la loi, mais juste un point aussi pour les auditrices et les auditeurs. Est-ce qu'on doit légiférer en tout ? Est-ce que ce n'est pas une question qui échappe au législateur ? Est-ce que ce n'est pas aussi une approche en conscience ? Et est-ce qu'une loi apportera véritablement la réponse humaine, sociétale, démocratique à des personnes qui sont à un moment donné dans une situation de souffrance morale? Et je termine sur un grand principe de l'éthique. Le grand devoir, qui est d'ailleurs beaucoup diffusé à travers les soins palliatifs, c'est le devoir de non-abandon. Ce que la personne attend, c'est pas de mourir rapidement et d'être euthanasiée, c'est souvent qu'on ne déserte pas à une demande, à une souffrance psychologique. Et on l'a vu avec la Covid-19. Ce que les familles et les personnes ont demandé, c'est d'être accompagnées. C'est
on a une heure pour parler de tout ça, Emmanuel Hirsch. On a le temps. Philippe Loéac, vous vouliez réagir à ce que dit Emmanuel Hirsch?
Oui, tout à fait, parce que la loi de 2005 était une loi qui permettait à toute personne arrivée en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable de voir ses traitements arrêtés, de bénéficier d'un double effet de médicaments puissants et morphiniques. On est quand même dans quelque chose où on dit le médecin qui doit connaître les posologies, s'il donne quelque chose de trop puissant, alors le malade va décéder. Donc on est dans quelque chose qui nous semblait très hypocrite. Et Emmanuel Hirsch a oublié de parler d'un décret qui est très important, 29 janvier 2010, un décret qui dit qu'en cas d'arrêt des traitements, il est possible de donner un traitement sédatif. Donc on avait en 2005, plus le décret de 2010, une sédation permise pour toute personne arrivée en phase avancée ou terminale d'une affection grave ou incurable. On avait la possibilité pour toute personne qui est dans une situation qui n'est plus tellement de la vie pour elle-même, mais de la survie, de dire « je veux arrêter mes traitements et avec la sédation, je vais décéder ». Et donc, il y a un moment où on dit « ça n'est plus de la vie, c'est de la survie ».
Vous ne décédez pas d'une sédation, ne dites pas des choses. La sédation, c'est pas un mode de fin de vie.
Vous avez
la sédation, c'est pour accompagner la personne pour qu'elle ne souffre pas.
Je vais compléter juste ce que je voulais dire, c'est que là, c'est effectivement...
C'est pas la sédation profonde. Oui, non, mais alors ne donnez pas l'approximation.
Dans le cas d'une sédation, on ne meurt pas non plus de la maladie, on meurt d'une insuffisance rénale sévère. Ah, c'est-à-dire qu'on crée une maladie intercurrente, et donc les reins s'empoisonnent, et le cœur lâche.
Alors, on va demander au médecin François Dama, médecin belge, hein, donc qui pratique l'euthanasie, ce qu'il pense de ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, François Dama, pour que on sache tous bien aussi de quoi on parle, la différence donc entre la sédation dont on parle, entre l'euthanasie et entre un autre terme qu'on entend beaucoup, le suicide assisté. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose de très clair là-dessus?
Ah oui, en deux phrases. J'aimerais bien d'abord dire que la loi en Belgique est en parfaite adéquation avec ce que les intervenants ont dit auparavant. La loi belge permet à la personne d'être écoutée et de pouvoir choisir la manière de mourir. Et donc ça, c'est vraiment la pierre angulaire de la loi, c'est que c'est le malade qui a le pouvoir. C'est le malade qui décide. Et donc c'est en parfaite logique avec les avancées de la loi française. Il n'y a pas de contradiction entre la loi belge et la loi française. C'est un ajout, un chaînon manquant que la loi belge a permis aux Belges de bénéficier et aux Français qui viennent en Belgique d'ailleurs.
Et alors donc,
je peux témoigner que j'ai quand même pas mal de Français qui viennent chaque semaine me voir pour parler de leur fin de vie.
Combien et vous avez beaucoup de Français qui viennent, François Dama?
Oui, j'en ai toutes les semaines des patients qui viennent me voir, qui n'aboutissent pas tous à une euthanasie, bien sûr, puisque c'est une procédure, c'est un processus, c'est un accompagnement, c'est un vrai parcours. Et pas mal de personnes qui pensent bénéficier d'un geste euthanasique n'en bénéficient pas. Pourquoi ? Parce que parfois, ça ne leur est pas nécessaire, ou parce que malheureusement, la maladie évolue trop vite et on n'a pas le temps de mettre les choses en place. N'ont pas le temps de revenir en Belgique, par exemple.
Alors, est-ce que du coup, vous pouvez nous faire un point, François Dama, pour qu'on comprenne bien, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, la différence euthanasie, suicide assisté, sédation, s'il vous plaît ?
Alors la sédation est une arme d'un médecin qui peut proposer dans des situations de fin de vie qui se passent dans des difficultés importantes de soulager la souffrance du malade avec des médicaments qui le rendent inconscient. Donc il y a trois conditions essentielles. Un, que la mort est annoncée dans les jours et les heures et les jours qui viennent. C'est une fin de vie, c'est pas la sédation qui entraîne la mort, c'est parce que la personne est en train de mourir que la sédation est rendu possible. Et cette sédation est rendue possible parce que cette fin de vie se passe dans de mauvaises conditions. Et la troisième condition, bien sûr, c'est que ce soit pris en concertation, en transparence avec le malade, avec l'entourage, avec l'équipe soignante. Voilà ce qu'est la sédation de fin de vie.
L'euthanasie,
c'est un acte létal qui met fin à la vie d'un patient à sa demande. C'est la prérogative du malade qui demande au médecin de pouvoir interrompre ses souffrances par cette injection létale. Il y a aussi trois conditions essentielles. La première, c'est que c'est le malade effectivement qui fait la demande et que ça n'émerge pas d'aucune autre initiative. Deuxièmement, il faut que cette demande soit justifiée par une souffrance intense, insupportable, constante, inapaisable, et que cette souffrance soit provoquée par une maladie grave et incurable. Donc, il y a ces trois conditions essentielles.
Et le suicide assisté qui n'est pas... François Dama, pardon. Le suicide assisté qui n'est pas légal en Belgique, je le précise, mais qui est légal...
Là, vous vous trompez. Vous vous trompez complètement. La loi parle d'euthanasie, mais la loi ne parle pas du mode opératoire avec lequel on doit faire l'euthanasie. L'euthanasie, pour certains, c'est le médecin qui injecte un médicament. Le suicide assisté, c'est la possibilité qu'un médecin a prescrit un médicament que le malade prend lui-même, s'administre lui-même.
Le mode
opératoire, donc le suicide assisté et l'euthanasie tel que je l'ai défini, est tout à fait permise par la loi belge, évidemment. Le premier cas déclaré à la commission de contrôle d'euthanasie en Belgique était, selon la définition que certains en donnent, un suicide assisté parce que le patient avait lui-même absorbé la potion létale qu'on lui avait présentée.
Marion Brouck, vous avez quelque chose à ajouter?
Non, mais je pense que, pour compléter ce qui vient d'être dit là, c'est qu'il faut qu'on puisse revenir sur l'importance des mots pour éclairer le débat en France. Les différentes propositions de loi qui sont faites les unes derrière les autres comportent des imprécisions sémantiques, voire des euphémismes lénifiant, elles nous disent, elles nous parlent d'aide médicalisée à mourir. Mais quand on parle d'aide médicale à mourir, c'est ce qu'on fait nous en soins palliatifs tous les jours. On aide médicalement les gens à terminer leur vie dans de bonnes conditions. Pas que, la sédation c'est quand même un phénomène, un épiphénomène, y compris en soins palliatifs. C'est-à-dire que tout le monde ne meurt pas avec une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Il y a plein d'autres déjà pratiques sédatives qui existent. Et puis il y a surtout beaucoup de patients qui sont soulagés, qui terminent leur vie simplement naturellement. Donc ça, je pense qu'il faut, il faut le dire. La différence que nous on fait de manière assez formelle sur l'euthanasie et le suicide assisté, c'est que l'euthanasie, c'est une injection létale qui est administrée par un soignant. Donc ça implique une tierce personne. Et le soignant, en l'occurrence, ce sont nous. Et c'est une solution qui est assez radicale et qui serait une réponse à une crainte sociétale, cela dit, tout à fait légitime, hein, la crainte du mal mourir. Ben, on peut se dire, j'ai peur de mal mourir, donc je souhaiterais pouvoir bénéficier d'une euthanasie administrée, enfin une injection létale administrée par un médecin. Alors que le suicide assisté, c'est permettre à une personne de se suicider elle-même, l'acte létal n'impliquant pas le corps médical directement. Donc finalement...
Oui, mais il y a quand même eu une prescription pour pouvoir procéder à ce geste.
Exactement. Donc après la prescription, tout le reste du processus, on le voit bien en Suisse, ce sont des associations de bénévoles. Hein. Il n'y a pas besoin d'un médecin pour faire ce genre de choses. Ce sont des associations de bénévoles qui accompagnent les gens qui le souhaitent dans ce suicide assisté.
Emmanuel Hirsch, au cœur de ce débat, il y a cette question dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est au médecin d'aider à mourir?
D'abord, je trouve que c'est très intéressant juste de préciser qu'il y a sédation transitoire, réversible, et sédation profonde et continue jusqu'au décès. On en reparlera dans la loi de 2016, qui peut être assimilable à l'euthanasie. La vraie question, pour répondre à votre question, Camille Grenier, c'est la suivante. Il ne s'agit pas uniquement de parler de la mort, mais de la fin de la vie, c'est-à-dire de la vie jusqu'au bout. Et effectivement, certaines personnes...
Mais pardon, que veut dire la vie quand on ne peut plus...
Je vais répondre. Certaines personnes considèrent que leur état de santé... soit physique, mais aussi d'un point de vue psychologique, est incompatible avec l'idée qu'ils se font de la dignité de leur existence. C'est ça la problématique fondamentale. Donc, où on leur apporte les éléments en termes de solidarité, de lutte contre la douleur, tous ces éléments d'un environnement favorable, ou à un moment donné, parce que leur valeur philosophique prime, elles souhaitent, ces personnes, qu'on abrège leur existence. La vraie question pour moi éthique, c'est est-ce que c'est au médecin de le faire? Et c'est là où ce que Marion Brooke disait est distinct entre le suicide médicalement assisté, on pourra en discuter, et l'euthanasie, on est dans des registres différents. Et donc, je pense que c'est un acte létal, hein, c'est-à-dire c'est tuer une personne. Je ne suis pas certain que ce soit la fonction du médecin. C'est là où, à titre d'éthique, hein, je dirais, je suis pas contre le fait qu'on en discute et qu'on rende un certain nombre de possibilités accessibles à des personnes. Et puis, il y a un élément à prendre en compte d'un point de vue éthique, c'est la faculté d'autonomie d'une personne lorsque vous êtes atteinte d'une maladie qui vous a fait souffrir pendant 10 ans. Que vous êtes désocialisé, que vous êtes fragilisé dans une situation de vulnérabilité. Est-ce que vous êtes en capacité encore de savoir si ceci est préférable à cela? Donc je pense qu'il faut du discernement et de la mesure. Et une législation favorable à l'euthanasie, puisqu'on l'aura dans les mois qui viennent, c'est assez évident, mettra en cause, me semble-t-il, à la fois l'éthique du soin et la vulnérabilité des plus vulnérables. Parce que quand vous êtes dans un environnement, regardez Axel Kahn, ça m'a beaucoup frappé ces derniers jours, il a tenu un discours de vie, c'était un homme de culture, il a affirmé profondément ses convictions, et ça a été très écouté par les gens, on a été tous impressionnés, non pas par ce courage, mais cette dignité de la vie jusqu'au bout. Je dirais qu'il ne faudrait pas qu'on soit dans une norme sociale qui, demain, considère que l'euthanasie est acceptable pour les plus vulnérables. C'est la seule restriction que je fais, sachant qu'on va vers une législation.
Je vous lis le témoignage qu'Elisabeth vient de nous envoyer sur l'application France Inter. Mon mari est décédé l'été dernier des suites d'un cancer. Nous avions convenu avec un service de soins palliatifs qu'il bénéficierait d'une sédation profonde et continue, mais la veille de son décès, les médecins sont revenus sur ce qui avait été décidé. Ils ont laissé, nous dit Elisabeth, mon mari agoniser plusieurs heures en étouffant. La loi Claeys-Leonetti nous laisse otage d'un pouvoir médical et religieux puissant. Le développement des soins palliatifs n'est pas la solution unique à une bonne fin de vie. Je vous laisserai répondre Marion Brooke dans un instant. La fin de vie, c'est le thème de ce débat de midi réalisé par Valérie Ayestaraï, préparé par Colin Gruel et Sophie Perroiguet. Et c'est Philippe Duclos qui est à la technique. We'll be right back.
c'est moins pour nous aller. Ma tête si vous, ma tête si vous. Les gars, pas moins à danser. Après tout ça, moi je vais. Vous laissez moi pour vous aller. Qu'à songer encore bien clair, moi qu'à voir si bateau là, vous laissez-moi pour nous aller. Quand j'ai crié ou crié fort, pas qui attend moi ou pas dit. Aujourd'hui, je vois qu'à songer, vous laissez-moi pour vous aller. Fais-moi commander, qui j'en m'appelle fait pour continuer. Si mon nom m'a gardé moi, mais vous laissez-moi pour vous aller.
Aléa, c'était Delgrès sur France Inter.
Le débat du midi. Sur France Inter.
Choisir sa mort doit-il être un droit ? On fait un petit peu plus funky hein, parfois comme thème, c'est vrai, mais c'est un débat qui nous concerne tous. La fin de vie, je suis avec l'infirmière Marion Brouck pour en parler, le délégué général de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, Philippe Louéac, le professeur d'éthique médicale Emmanuel Hirsch et le médecin hospitalier belge François Dama qui pratique l'euthanasie à Liège. Dans un sondage Ipsos du 8 avril dernier, 93% des Français considéraient que la loi devrait autoriser le médecin à mettre fin sans souffrance à la vie des personnes atteintes de maladies incurables ou insupportables si elles le demandent. Philippe Louéac, pour vous, le débat sur la fin de vie, c'est pas de choisir entre la vie et la mort, c'est ce que dit votre association, c'est de choisir entre deux morts différentes, c'est ça ?
La question c'est, la mort est là, que fait-on ? Est-ce qu'on la maîtrise soi-même ou est-ce qu'on laisse à d'autres le choix de décider pour nous-mêmes. Et nous, on pense que dès lors que la personne est capable juridiquement, qu'elle a ses propres facultés et qu'elle fait une demande, elle a le droit librement de décider ce qu'elle veut. Et quand la mort est là, ça n'est pas le médecin, ça n'est pas la médecine qui donne la mort, c'est la vie qui donne la mort. Vous dites, tout en introduction de cette seconde partie, vous dites c'est un sujet qui n'est pas funky. Peut-être que ce n'est pas funky, encore que c'est de la liberté. Et nous sommes quatre autour de cette table, quelques-uns en régie, nous allons tous mourir. C'est la chose la plus importante que nous ayons à traiter de notre vie. On constate en France qu'on meurt mal. Tout le monde s'accorde là-dessus. On s'accorde en France à dire qu'il n'y a pas de soins palliatifs. Tout le monde
Marion
s'accorde
Brouck, vous êtes d'accord qu'on meurt mal en France ?
C'est un constat sur lequel j'aimerais bien revenir après l'intervention.
On s'accorde à dire que Alain Coq a dû fuir en Suisse pour bénéficier d'une aide active à mourir. Anne Berthe a dû fuir en Belgique pour bénéficier d'une aide active à mourir. Anne Berthe avait la maladie Charcot. La loi de 2016 est inaudible sur la loi sur la maladie de Charcot. Elle n'a pas de solution. La maladie de Charcot, je le rappelle à vos éditeurs, c'est on est emmuré dans son corps. D'abord, ce sont les muscles volontaires qui se pétrifient jusqu'aux muscles involontaires, c'est-à-dire toute la respiration. Mais la loi ne dit rien puisque la loi de 2016, c'est qu'elle ne s'applique, la sédation profonde continue maintenue jusqu'au décès, que dans les toutes dernières heures de la vie.
Marion Brouck, pour rebondir alors sur le fait qu'on meurt mal en France. Les soins palliatifs, on le précise quand même, hein, il y a beaucoup de départements, je crois une quinzaine, qui n'ont pas de soins palliatifs, qui n'ont pas d'unité.
Alors, le problème est plus large que ça. Effectivement, ça c'est un scandale absolu qu'en France, on mette pas les moyens nécessaires pour qu'on puisse recourir à des soins palliatifs ou qu'on soit sur le territoire français. Ça c'est une évidence, les moyens ne sont pas mis à ce niveau-là. Mais Pour revenir plus largement sur les craintes des concitoyens, de nos concitoyens sur le mal mourir en France, et qui s'avère en plus une évidence, c'est que les gens ont peur d'être victimes d'acharnement thérapeutique. Et malheureusement, l'acharnement thérapeutique est une réalité. Sur le terrain, on constate qu'on a beaucoup de soins inutiles, disproportionnés, qui n'ont pas d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, c'est ce que c'est défini par la loi. Et malheureusement, on a, et ce qui est assez scandaleux, sur quoi j'aimerais discuter là un petit peu, c'est que le système de financement des hôpitaux en France, avec la tarification à l'activité, incite, c'est une incitation financière à faire de l'obstination déraisonnable. C'est-à-dire qu'il faut faire toujours plus d'actes, toujours plus d'examens, de chimio, pour qu'il y ait une rentabilité. Donc on ne peut pas prendre en charge correctement des patients, dire dans la loi, inscrire dans la loi que l'obstination déraisonnable est interdite, et finalement avoir un système qui favorise cette obstination déraisonnable.
Donc, mais avec ce que vous dites, en quoi, du coup, vous êtes contre l'euthanasie, puisque l'euthanasie pourrait permettre, entre guillemets, à certains patients de ne pas subir cet acharnement et de ne pas subir des soins.
Une réponse, la réponse qui devrait exister, c'est que au plus haut niveau de l'État, on devrait se poser les questions correctement, évaluer la loi classée Onetti, et on verrait bien concrètement que sur le terrain, il y a énormément de services dans lesquels on a cet acharnement thérapeutique.
On a un message de Guillaume à ce sujet qui nous écrit: quand on voit dans quel état se trouvent les EHPAD et les services de gériatrie dans les hôpitaux, je peux concevoir que certaines personnes préfèrent faire le choix de mourir.
C'est la question fondamentale.
Emmanuel Hirsch.
C'est pas uniquement le mal mourir, c'est le mal vivre pour des personnes avec la longévité qui se retrouvent désocialisées, souvent dans des institutions qui n'ont pas en capacité de leur donner même goût ou envie de vie, hein, sans être stigmatisant à l'égard de ce qui se passe aussi de remarquable dans les EHPAD. C'est aussi un constat très important, c'est que de plus en plus de personnes qui mouraient relativement vite de certaines maladies, on est dans la chronicité, dans le longtemps de la maladie, et on n'a pas encore de réponse véritablement adaptée par rapport à ces questions, et vous avez donc des souffrances qu'on appelle des souffrances existentielles. Et c'est là où il y a la demande de l'euthanasie, c'est-à-dire des gens, à un moment donné, ils disent « j'en ai assez, il faut que ça cesse ». Et ils parlent même, ces personnes, elles parlent souvent d'euthanasie sociale. C'est-à-dire, elles ont été désocialisées. Alors juste un point qui me semble très très important par rapport à la question, c'est que l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, quand elle s'est créée, a été contre le pouvoir décisionnaire des médecins, d'une certaine manière arbitraire. La vraie question, c'est la médicalisation de la fin de vie. C'est-à-dire comment resocialiser ces questions, quel type d'accompagnement. C'est là où il faut être, à mon avis, inventif. C'est-à-dire comment réinventer des modes d'accompagnement des personnes au long cours, qu'elles se soient par exemple des personnes âgées ou des personnes malades.
Mais pardon, il y a des personnes, Emmanuel Hirsch, qui ne veulent plus être accompagnées, qui veulent tout simplement finir.
Non mais je le conçois, mais ça c'est déjà notre première réponse politique. Ensuite, dans la DMD, dans la démarche de la DMD, il y a l'accès universel aux soins palliatifs. Et si on parle de choix entre euthanasie, et ça a été dit tout à l'heure, ce qui se passe aujourd'hui en Belgique, aux Pays-Bas, les gens ont le choix, ils peuvent se prononcer entre ceci plutôt que cela. Là où il y a quelque chose de tout à fait désastreux, c'est qu'on nous parle de législation alors qu'on n'a même pas, alors que c'est depuis 1999, mis en place des structures aussi bien au domicile, parce que c'est une question importante, qu'en institution. Il y a une indignité à l'égard de finalement les gens des soins palliatifs. Et je dirais qu'on pourrait vraiment avoir le débat, et on l'aura demain puisqu'on sait qu'on va légiférer dans ce domaine, ça va être un enjeu de la prochaine campagne électorale.
Pour vous, c'est sûr.
Mais c'est évident. Pourquoi? Et je termine sur ce point.
D'ailleurs, sujet, Emmanuel Macron, il brouille un peu les pistes.
Non mais, la réalité, et c'est là où je suis finalement dans une position très, très, très malsaine, vis-à-vis de moi-même, c'est que la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est de l'euthanasie. Puisque l'intention, c'est pas que la personne se réveille. Tout à l'heure, on a évoqué Vincent Lambert. Vincent Lambert, l'intention, c'était pas de le sédater d'une manière provisoire, c'était de le tuer. Ce qui s'est passé uniquement pour des raisons médico-légales, on a eu 11 jours d'agonie. Moi, personnellement, d'un point de vue humain, je préfère, j'allais dire, l'euthanasie, c'est-à-dire un acte létal immédiat, pas par un médecin, mais un acte létal immédiat, plutôt qu'une prolongation d'existence sans relation. Pour moi, c'est quelque chose qui est grave dans la loi de 2016, qui était différente.
C'est cette hypocrisie que vous dénoncez, Philippe Loéac, ce que vous appelez l'aide à mourir passive, quand vous demandez une aide à mourir active.
En fait, la sédation, quelle que soit la technique, et vos auditeurs ne sont pas des techniciens, c'est à un moment, on pose le constat que la vie n'est plus que de la survie, et on fait un acte médical qui conduit à la mort. Nous, on dit plutôt que de faire traîner les choses 9 jours pour Vincent Lambert, 31 jours lors de la première sédation de Vincent Lambert, on dit, pour ceux qui le souhaitent, l'administration d'un produit létal. Et d'ailleurs, la SFAP est un peu ennuyée, parce que vous savez que 71% des médecins, aujourd'hui, selon le sondage Medscape, rejoignent les Français. 71% des médecins sont favorables à l'euthanasie. Donc en fait, on est dans une France qui est favorable, et puis un petit groupe qui bloque pour des raisons qui parfois
mais sont... Vous entendez que c'est un débat national qui oui. mérite d'être débattu.
Mais, oui, mais ce débat, vous savez, la DMD est créée en 1980. Le débat, il existe depuis toujours. Il n'y a pas d'autre solution que de dire aux gens, à partir du moment où vous avez la volonté et que vous en avez la conscience, vous pouvez bénéficier de votre liberté, c'est votre vie.
François Dama, vous qui êtes à Aix-en-Provence, vous voulez réagir?
Oui, j'aurais bien aimé dire quand même que le fait de légiférer sur l'euthanasie ne va pas compromettre du tout la promulgation des soins palliatifs. Ce sont deux choses qui vont de pair. Ça va en même temps, si vous confrontez une équipe soignante avec un problème d'euthanasie, vous renforcez immédiatement la réflexion sur les soins palliatifs et les moyens qu'ils vont y mettre à sa disposition. Ce sont des choses qui ne sont pas contradictoires du tout. Une euthanasie bien conduite est un soin palliatif réussi. Ça, c'est quelque chose qui apparaît dans l'expérience. Ça peut paraître tout à fait aberrant et mystérieux pour ceux qui n'ont jamais assisté ou participé à une procédure qui aboutit à une euthanasie, mais c'est l'évidence même pour ceux qui la vivent. Et donc, il est normal que le médecin soit manifestement impliqué dans la procédure. Justement, quand j'entends dire qu'il ne faut pas abandonner les malades, d'une part, et qu'il ne faut pas non plus négliger la vulnérabilité des autres, qui est le mieux placé pour accompagner correctement son patient jusqu'au bout, sans l'abandonner d'une part, et en le conseillant, en le guidant de manière à ce qu'il ne prenne pas des solutions expéditives, c'est le médecin. C'est le médecin, évidemment, et l'équipe soignante, entourée par une équipe soignante, en relation avec la famille, évidemment. Les choses doivent être bien construites, toujours. Alors, dans les soins palliatifs, tout le monde connaît l'importance de l'approche multidisciplinaire et du souci du malade et de son entourage familial. Eh bien, c'est la même chose pour l'euthanasie. Et l'expérience belge démontre bel et bien que lorsqu'on légifère sur une augmentation de la liberté donnée aux malades, eh bien, les structures de soins et les médecins s'adaptent et améliorent considérablement dans tous les domaines d'ailleurs, pas seulement l'euthanasie elle-même, mais dans tous les domaines d'approche et d'accompagnement de la mort, améliorent considérablement les qualités de celle-ci.
François Dama, vous dites dans un documentaire...
C'est un message majeur.
Vous dites dans un documentaire qui sera diffusé au mois de novembre sur la RTBF, documentaire qui s'appelle « Les mots de la fin », on vous voit, vous expliquez que les gens doivent vous convaincre de leur souffrance et on vous voit recevoir plusieurs patients, dont un qui vient de France et je voudrais qu'on écoute ce qu'il vous dit.
Qu'est-ce que j'en veux à mon pays de ne pas le faire? Que ce soit les médecins, les vrais sachants et les politiques, j'ai honte pour eux. Alors bien sûr, ils nous entendent, oui, mon pauvre, mais c'est tout.
Marion Brooke, quand vous entendez ces témoignages qui existent par dizaines, François Dama le disait tout à l'heure, il y a plein de Français qui vont en Suisse, en Belgique ou peut-être bientôt en Espagne. Vous entendez qu'il y a un problème avec la
France ? Bien sûr, moi je suis persuadée, pas que moi, mes collègues, et ce qu'on constate au quotidien, c'est que l'hôpital, de manière générale, est lui-même en fin de vie. C'est-à-dire qu'on n'a pas de moyens, il y a une insuffisance d'acculturation au niveau des soins palliatifs qui est phénoménale, c'est-à-dire que les soins palliatifs ne concerneraient qu'une toute petite tranche de médecins qui s'intéresseraient à ces soins palliatifs, alors qu'en fait tous les médecins devraient être capables de soulager des douleurs, tous les médecins devraient pouvoir prendre en considération en soins à leurs patients jusqu'au bout. Il y a vraiment très peu d'intérêt pour la médecine palliative. Il n'y a pas de sensibilisation aux soins palliatifs, il n'y a pas de formation, les médecins ne sont pas formés aux soins palliatifs. Donc, compte tenu de tout ça, moi je ne peux que comprendre qu'il y ait des patients qui soient en détresse. Quoi.
Mais ce que disait François Dama, ça peut cohabiter. Pourquoi des bons soins palliatifs ne pourraient pas cohabiter, ou je ne sais pas comment le dire, avec l'euthanasie? L'un n'empêche pas l'autre, en fait.
Moi, je pense qu'il est primordial d'interroger la nature de la liberté de la personne en détresse qui ne voit pas d'autre alternative que de se supprimer ou de se faire supprimer.
Alors, Philippe Louéac, vous hochez la tête. Pourquoi vous dites qu'il ne voit pas d'autre alternative?
Nous, ce qu'on fait, notre travail au quotidien, quand on a ces patients-là qui arrivent, comme le témoignage qu'on vient d'entendre, on prend le temps de s'asseoir, d'essayer de comprendre de manière systémique la nature de la demande, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue là-dedans.
Mais c'est ce que fait François Dama, je vais vous demander de réagir, c'est ce que vous faites, vous les recevez plusieurs fois.
C'est bien ce qu'on fait, évidemment.
Et vous refusez des euthanasies. Qu'est-ce qui vous fait refuser d'ailleurs une euthanasie?
Mais bien sûr qu'il y a des personnes qui viennent demander l'euthanasie qui ne sont pas du tout des réflexions adéquates et des décisions pertinentes. Évidemment, le médecin reste justement celui qui est l'expert, qui guide et qui conseille.
Qu'est-ce qui vous fait justement, à vous, François Damart, refuser une euthanasie? Qu'est-ce qui peut justifier, de votre point de vue, de ne pas la valider?
Quand il y a d'autres solutions claires et que la situation n'est pas aussi désespérée que l'imaginent les personnes, parfois quelqu'un qui a un parcours de souffrance important est perdu dans cette lutte qu'elle a quotidiennement. Et puis quand on lui montre d'autres solutions, quand on lui fait miroiter d'autres perspectives, elle peut changer d'avis. Elle peut redemander, elle peut reprendre un peu d'ailleurs espoir. Mais ceci dit. Le fait de dire que l'euthanasie est possible, rien que ça est déjà une délivrance pour les personnes. Elles peuvent affronter nettement mieux leur parcours de difficile. Elles peuvent négocier avec elles-mêmes de manière beaucoup plus adéquate en sachant qu'elles ont une possibilité un jour de demander une euthanasie.
Philippe Louéac.
Et ça, c'est quelque chose de libérateur, d'émancipateur même.
Philippe Louéac.
Oui, juste, c'est pas ce que je voulais dire, mais je voulais remercier François Damart de parler de ce phénomène de la porte de sortie. C'est important. Je sais comment je vais mourir, donc je suis en capacité d'accepter plus de thérapeutiques et d'aller plus au fond. Mais c'est pas ce que je voulais dire. À chaque fois que le débat sur l'aide active à mourir apparaît, sur l'euthanasie et le suicide assisté, on nous dit, ah oui, mais il faut les soins palliatifs. Rapport Ferrand de 2012, docteur Édouard Ferrand, nous dit 61% des personnes qui demandent à bénéficier de l'aide active à mourir quand ils rentrent en soins palliatifs, réitèrent cette demande, quelle que soit la qualité des soins palliatifs. Donc on a ce phénomène, c'est pas parce que les soins palliatifs sont bien menés, alors il n'y a plus rien, c'est pas la vérité. Et puis vous savez, moi je suis un pragmatique. Le 8 avril, on nous a dit, comme souvent quand il y a un débat au Parlement, la loi Leonetti est la meilleure du monde, elle n'est pas appliquée, elle n'est pas connue.
On va juste rappeler le 8 avril, Olivier Falorni, député, a fait une proposition de loi pour encore accélérer sur la fin de vie, qui n'a même pas été rejetée, c'est qu'elle n'a pas eu le temps d'être débattue à l'Assemblée,
l'article
il y avait plus de 3000 amendements.
Important, contrairement à ce que disait ma voisine, l'article 1 qui définit ce qu'est l'aide active à mourir, euthanasie et suicide assisté, c'est très clair dans l'article 1, a été voté par 240 députés contre 48, donc l'Assemblée nationale est favorable. Et quand les pays étrangers, l'Espagne, le Portugal, l'Autriche...
Le Portugal, non.
Si, ça a été voté. Simplement, il y a un problème de respect des droits, donc ça a été revu et ça reviendra. Ces gens-là, ils ne s'inspirent pas de la loi Leonetti. Personne ne s'inspire de la loi Leonetti. Vous êtes journaliste, il y a des Français qui partent en Belgique, qui partent en Suisse, vous allez bientôt en Espagne peut-être. On n'a jamais vu un seul Belge venir en France. On n'a jamais vu un seul Suisse venir en France pour mieux mourir. Parce que les gens là-bas, même ceux qui étaient opposés à la loi belge en 2002, se disent « cette liberté, elle est fondamentale.
Emmanuel
en Belgique,
Hirsch.
Je peux bénéficier de la sédation aussi. »
Emmanuel Hirsch, pour réagir à ce que vient de dire
Premier
Philippe
point, Louéac. Je ne sais pas autour de la table les gens qui ont une conviction aujourd'hui. Moi, je ne sais pas ce que je souhaiterais le jour où je serais confronté.
D'où
pour
la
moi,
liberté. D'où la liberté.
Donc la question du doute est quelque chose d'important.
D'où la liberté.
C'est une question que chacun, j'allais dire, selon sa culture et selon l'environnement dans lequel il se trouve. Je vais juste répondre sur un point, une expérience personnelle. J'ai présidé pendant 4 ans l'Association nationale de la maladie de Charcot. Et donc des malades, effectivement, qui ont une médiane de survie d'à peu près 30 mois lorsqu'on leur annonce la maladie. Et ce que j'observe, c'est qu'il faut distinguer peut-être une loi par rapport à ce qui se passe au cas par cas dans la relation de soins avec une équipe. Aujourd'hui, vous avez quand même très peu de personnes atteintes d'une maladie tragique qui, d'un point de vue public, revendiquent le fait d'aller à l'étranger pour demander une euthanasie. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, et c'est la même chose en cancérologie avec les soins de support, on anticipe l'évolution possible de la maladie, éventuellement lorsqu'elle va être à un moment donné létale, et il y a une négociation avec l'équipe. C'est-à-dire, juste je me permets de dire, c'est pas parce qu'il y a certains cas un petit peu médiatisés qui sont effectivement dramatiques que l'on doit dire que ça se passe mal aussi au niveau de l'accompagnement. Et je dirais que le grand scandale pour moi, c'était de dire la loi de 2005, la loi Leonetti n'est pas appliquée. De plus en plus, on voyait une acculturation, c'est-à-dire des gens qui de plus en plus prenaient en considération quoi ? La collégialité, c'est-à-dire le discernement. Voilà. Un point qui me semble fondamental, et parce que tout à l'heure vous me disiez quelles sont les lois. Une loi fondamentale, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la loi Kouchner du 4 mars 2002, droit des malades et qualité du système de santé.
Qui reconnaît le droit des malades.
Non, qui aborde la question de la mort dans la dignité, c'est-à-dire chacun peut effectivement prétendre avoir une mort digne. Mais personne n'a dit que la mort digne, c'était l'euthanasie. Pour moi, une mort digne, c'est une mort en société, reconnue dans la valeur et les droits de chacun. Et puisqu'on a évoqué tout à l'heure le Comité consultatif national d'éthique, hein, dans l'arrêt de 63, il dit l'exception d'euthanasie. C'est-à-dire, dans certaines circonstances spécifiques, on pourrait envisager l'exception d'euthanasie. Pour moi, il y a une distinction entre légiférer sur l'euthanasie et envisager une exception d'euthanasie. C'est une nuance, en tous les cas, que je porte à votre connaissance.
Allez, on a un message de Guillaume sur franceinter.fr qui nous demande « Quid des personnes qui vivent avec une pathologie psychologique qui pourraient également vouloir une euthanasie ? Comment peut-on l'évaluer, le juger ?» François Damas, je vous laisse y réfléchir. Vous avez 2 minutes. En attendant, les auditeurs, continuez de nous envoyer vos questions, vos témoignages sur l'application France Inter, par mail ou sur Twitter avec le mot-clé « Débat de midi ».
Tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée, entendre les écouillards chanter.
Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois. Les peines d'avant, avant la rivière a séché, avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée, entendre les séquoias chanter. Ah, ah, ah. De ma voix et habiter mon propre corps pour la première fois. J'ai bien gardé tous les secrets du vent entremêlés, la salle épaisse et mon sang. Avant les arbres assassinés, j'ai respiré en entier pour une fois.
Pomme, c'était les séquoias et Valentine Chedebois pour la programmation musicale.
France Inter. Le débat du midi. Camille Cronier.
Et je reviens sur la question posée à l'instant par Guillaume sur franceinter.fr. Quid des personnes qui vivent avec une pathologie psychologique qui pourrait également vouloir une euthanasie? Comment peut-on la juger, François Damas? Est-ce que il vous arrive d'avoir des personnes qui viennent vous voir qui ont ces pathologies psychologiques à qui vous dites non, ça ne va pas être possible?
Oui, effectivement. Les maladies psychiques sont des conditions parfois extrêmement difficiles à vivre et peuvent justifier une demande d'euthanasie qui, pour certaines, sont acceptées. Elles sont très minoritairement acceptées. Sur une année, à peu près 30 à 35 personnes ont été euthanasiées suite à une maladie psychique. Mais le problème, voyez-vous, c'est que le malade doit arriver avec son médecin à la conclusion que c'est la dernière solution raisonnable, l'euthanasie. Il faut que le médecin se fasse une conviction que c'est bel et bien ça qu'il faut faire comme dernier meilleur service à rendre aux malades. Alors les choses sont relativement simples lorsqu'il s'agit d'une maladie physique, une maladie somatique, avec une espérance de vie dérisoire, avec une fin de vie qui s'annonce. Dans le cas de maladie psychique, c'est pas le cas. Et donc le travail de conviction que le médecin doit faire vis-à-vis de son patient est évidemment beaucoup plus difficile. Il doit douter davantage et l'acceptation se fait beaucoup plus rarement. J'insiste bel et bien sur beaucoup plus rarement. Alors, la procédure, je ne vais pas passer sur les problèmes de procédure, ce serait trop long dans le cas de cette émission. Mais la procédure est évidemment plus compliquée et plus complexifiée que pour une maladie.
En un mot, d'ailleurs, François Dama, pardon.
Un cancer en stade terminal ou une maladie de Charcot.
Je vous coupe, en un mot vraiment, il y a un délai entre le moment où vous validez l'euthanasie et le moment où elle est pratiquée. Il se passe, c'est quoi? C'est en termes de jours, en termes de semaines, en termes d'années?
Quand il s'agit d'une maladie psychique?
Non, pardon, quand il s'agit d'une maladie incurable, quand il s'agit d'un cas que vous avez validé pour une euthanasie.
C'est extrêmement variable. Je valide la demande d'une euthanasie en trouvant conforme aux conditions légales. Ça n'explique pas et ça n'aboutit pas nécessairement à un acte euthanasique. C'est le malade qui va jusqu'au bout décider le jour et l'heure à laquelle il donne son dernier rendez-vous. C'est pas parce qu'il est l'autorisation des docteurs qu'il va choisir cette voie. C'est encore lui qui décide. La fameuse ambivalence que certains observent très souvent, que j'observe peu moi-même, par contre, mais elle demeure la possibilité du malade de ne pas choisir cette fin. Donc c'est très variable d'une personne à l'autre. Et ça varie évidemment selon le contexte médical, selon l'évolution de la maladie et selon les souffrances que présente le malade. S'il fait cette demande d'euthanasie, sachant qu'il a une maladie grave, incurable, mortelle prochainement, mais que la fin se passe mieux qu'il n'imaginait, il ne demande pas l'euthanasie, il ne va pas la réclamer. Alors, mais si sa situation devient intolérable, il va l'activer en disant voilà, maintenant c'est pour demain. Et donc ça peut aller très vite, comme ça peut ne jamais arriver, ou que ça peut prendre un délai indéterminé. Ça
on
peut
a un message.
4-5-6 semaines.
4-5-6 semaines, d'accord. On a un message d'un médecin réanimateur sur l'application France Inter qui nous écrit « L'euthanasie en France ne doit pas être le prétexte et un raccourci d'un manque de moyens patent en soins palliatifs pour la prise en charge d'un patient en fin de vie ». On a aussi un autre message d'Hugo qui nous raconte que sa sœur a eu un accident de voiture. « Après un diagnostic très pessimiste, nous dit-il, des évolutions positives ont eu lieu. Ces évolutions ont été niées par les médecins qui nous orientaient vers une mort accompagnée, ayant tout pouvoir sur les décisions à venir ». Marion Brouck, j'aimerais bien que vous réagissiez à ces deux messages, s'il vous plaît.
Alors, sur le premier, je partage vraiment le constat de ce médecin réanimateur qui dit que faire évoluer la loi pour
pallier des manquements dans
voilà,
les soins palliatifs.
Je trouve ça terrifiant. Enfin, l'euthanasie n'est pas une réponse envisageable et entendable sur ce motif-là, en tout cas. Et quant à la deuxième situation, là encore une fois, c'est l'expression de la toute-puissance médicale. Elle existe partout, qu'on le veuille ou non. Et le changement de loi ne changera pas grand-chose à ce niveau-là. Moi, je pense que c'est une... Oui, là, il est question de toute puissance médicale dans le deuxième témoignage que vous venez d'avoir.
La démonstration de la caricature de l'extrême avec la pandémie, quand des gens ont été euthanasiés.
Des gens ont été euthanasiés?
Faute de pouvoir recourir à des soins, on a mis en place des procédures, pour moi, arbitraires, on le sait très très bien, dans des EHPAD, éventuellement même dans certains services hospitaliers. C'est là où on a besoin de transparence.
Mais pardon, Emmanuel Hirsch, ce que vous dites, c'est quand même assez grave.
C'est pas grave, c'est quelque chose de connu. C'est-à-dire que dès lors qu'on était avec des moyens limités, qu'on a dû choisir qui on réanime, qui on réanime pas, qui on transfère dans les hôpitaux, qui on ne transfère pas, demander aux gens des soins palliatifs comment s'est passé effectivement cet accompagnement. Comment s'est passé cet accompagnement, parlez-en d'un point de vue objectif, comment les personnes ont été respectées dans leur choix, comment les familles ont assisté. C'est-à-dire toute la philosophie de l'accompagnement des soins palliatifs a été quand même amputée par une situation extrême que les familles aujourd'hui ont tellement mal vécu qu'elles sont en train d'engager des procédures contre les établissements.
Philippe Loyac, ça a eu un impact dans les demandes aussi sur la demande d'accélération des lois sur la fin.
Curieusement non. Mais vous savez ce que vous apprenez là, que Emmanuel Hirsch connaît, Un politique qui a donné son nom à l'une des lois sur la fin de vie a dit dans un article du Point en 2008 « J'ai arrêté des respirateurs pour libérer des lits ». C'est quelque chose qui est connu de tous les hôpitaux. Vous êtes à la veille du week-end de Pâques, vous avez tous les lits qui sont occupés par des personnes âgées, et puis vous savez qu'il va y avoir des jeunes qui vont avoir un accident sur la route. Il faut faire des choix.
Marion Brooke, je vous entends. Vous êtes d'accord avec ce que dit là Philippe Loéac?
Non, absolument
vous
pas.
Vous qui êtes à l'hôpital?
Non, moi je suis à l'hôpital tous les jours, je suis en équipe mobile de soins palliatifs. Je vois des patients dans tous les services de l'hôpital et tout ce qui vient d'être dit là est complètement incroyable à entendre. Mais réalité, c'est que la traversée du Covid a été certes très complexe. On a évincé les familles complètement de l'hôpital. Donc les gens sont morts effectivement seuls dans des conditions épouvantables parce qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens pour s'occuper des gens, notamment dans les EHPAD. Mais en revanche, sur la question du tri, moi je suis désolée, mais je ne peux pas entendre ça. Les patients âgés, notamment ceux qui étaient en EHPAD, n'ont pas été admis en réanimation simplement parce que souvent polypathologiques et incapables de survivre à une réanimation.
Les rapports parlementaires, c'est bien juste, pour ça. Juste, on ne va pas tergiverser là-dessus. La réalité est tellement évidente. Tant mieux si vous avez ce sentiment. On a même, à un moment donné, on ne disposait pas des produits pour permettre vraiment des sédations, reconnaissez-le. Donc, moi, je vais sur le terrain des EHPAD et pas uniquement de l'hôpital où vous êtes. Donc, je me suis permis cette affirmation que l'on me démente aujourd'hui en disant que c'est faux. Je suis pas certain qu'on le fera. Mais juste un point qui me semblait tout à fait important par rapport au sujet. On a abordé les personnes qui ont des troubles psychiatriques ou psychologiques. Et c'est une réalité de beaucoup de personnes quand elles sont confrontées à la question de la mort. Et dans la législation qui est aujourd'hui proposée, il y a la notion de discernement. C'est-à-dire qu'on puisse confirmer que la personne est en capacité de discernement. Et puis un deuxième point, et je le dis vraiment pour les auditrices et les auditeurs, c'est les directives anticipées. Je pense qu'on a un devoir, chacun d'entre nous, déjà de réfléchir à quelle serait la position qu'on adopterait, parce que quelquefois il y a aussi...
Donc les directives anticipées, on précise, c'est de pouvoir noter
rédiger,
à l'avance
parce que quelquefois
nos
il y a aussi un conflit moral avec les familles qui, quand on les consulte, disent ils n'auraient pas souhaité ou au contraire ils l'auraient souhaité. Donc je pense qu'il faut de la loyauté, de la transparence.
On a un témoignage d'un auditeur qui est atteint de la maladie de Charcot. Il nous écrit, François Damas, je suis très handicapé, j'envisage de mettre fin à mes jours étant donné l'inadaptation de la loi à des cas semblables aux miens. Je suis sans espoir et terriblement déçu par le monde politique français incapable de courage. François Damas, dans le documentaire dont je parlais tout à l'heure, qui sera diffusé en novembre sur la RTBF, il y a un de vos collègues qui explique que parfois, une bonne euthanasie, je le cite, vaut mieux qu'un suicide horrible. Vous êtes d'accord avec ça?
Je pense qu'un accompagnement humain est meilleur que laisser les personnes se suicider seules de manière, dans un raptus anxieux épouvantable. C'est une mort programmée qui permet à tout l'entourage de se réunir une dernière fois au plus proche pour dire un meilleur au revoir est une vraie expérience positive. C'est de l'ordre de la transmission. Les personnes s'en vont en disant au revoir avec le sourire et permettent à ceux qui restent de conserver un souvenir, non seulement, mais un viatique pour envisager leur fin personnelle un jour. Je pense que lorsque on a accompagné des personnes comme ça en fin de vie, de manière aussi consciente et partagée, il y a une caractéristique de la loi belge qui permet l'émancipation, et je dis, c'est permettre aux personnes de choisir lucidement. C'est le prix à payer, la lucidité, effectivement, la lucidité.
Et Philippe Loéac, c'est ça, si on peut le résumer, c'est partir finalement sans être triste, mais en étant serein, en un mot.
En étant serein, dans sa propre liberté, nous ne sommes pas opposés aux soins palliatifs. En Belgique, les soins palliatifs sont en accès universel.
Et évidemment, c'est un débat dont on reparlera, comme vous le disiez, Emmanuel Hirsch,
une belle parole,
certainement
celle avec de François Damas. Moi, je suis très impressionné par les valeurs d'humanité qu'elle porte.
Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé. Marion Brooke, infirmière en soins palliatifs, membre de la SFAP. Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale, spécialiste de la fin de vie. Philippe Loéac, délégué général de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et François Damas, médecin hospitalier à Liège, en Belgique. Merci aussi aux amis de France Bleu Provence à Aix pour le duplex. Très bon après-midi les amis. On se retrouve demain pour parler de l'avenir de la chasse.